Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi, dont la rétine est encore toute éblouie du thème de bureau violet mauve installé par ta petite sœur. Oula. Je crois que maintenant, tu as compris qu'il y a deux sortes d'univers informatiques. Le logiciel propriétaire et le logiciel libre. Dans l'un, tu achètes une licence d'usage et tu installes le soft produit fini tel qu'il est. Tu n'es qu'un client et puis c'est tout. Dans l'autre, tu as le droit de le copier. Pour toi, pour ton voisin, pour ton prochain, tu peux regarder sous le capot et tu peux même participer à son développement. Mais si installer un Linux ou un Windows, c'est désormais kiff-kiff bourricot en termes de difficulté, c'est un terme technique, il faut reconnaître que le monde du logiciel libre revient de loin, revient de très très loin. En 2000, Linux et compagnie étaient des repoussoirs. Graphiquement affreux, fonctionnellement rebutant, et d'une prise en main malaisée pour le non-spécialiste. Franchement, il fallait en vouloir pour mettre quelqu'un sous Linux. Il faut reconnaître que le Mac avait un aspect classieux avec son design accueillant et simple qui fait tout pour cacher tout début de complexité à l'utilisateur au risque de trop simplifier. Quant à Microsoft Windows, il était familier quand on le voyait partout et qu'il donnait beaucoup de contrôle. Beaucoup, beaucoup de contrôle, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle au risque de montrer trop d'informations. Alors que Linux, non mais franchement, déjà on commençait par la ligne de commande si l'interface graphique avait le malheur de ne pas être configurée ou de planter. Ensuite, on avait un shell graphique, soit le GNOME qui singe macOS ou KDE, ce qui est d'année de Windows. Bah, on avait des programmes qui ont des interfaces très différentes. Alors, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a 20 ans. Une fois, j'ai compté que j'avais 9 types de fenêtres d'ouverture de fichiers, tous très différents. Oui, il y avait Athena TK, il y avait plein de tout le kit absolument incroyable. Et ça dépendait suivant le programme que j'utilisais. Pire que tout, certains sélecteurs proposaient d'utiliser des marque-pages pour aller plus vite vers un répertoire. Ça, c'était génial. Sauf qu'ils ne partageaient pas ces raccourcis entre eux. Ah oui, donc sur GIMP, c'était là. Et là, non, mais là, je vais où là ? Oh, bon, d'accord. L'énervement était garanti quand on lançait un programme nouvellement installé la première fois ou quand on le réinstallait. Enfant du futur immédiat, je ne te parle que de la prise en main quotidienne, mais imagine la gestion technique des paramètres de l'ordinateur. Mandrake, une distribution française, avait ouvert la voie à l'époque pour simplifier l'administration de son ordinateur à une époque héroïque où compiler le kernel n'était régulièrement que la meilleure réponse possible, c'est dire. Une opération qui prenait une journée complète, à condition d'avoir une machine très haut de gamme. Et franchement, on en avait déjà parlé 20 ans après, c'est toujours un bazar déprimant pour tout nouveau venu, par endroit. T'auras beau avoir des gens de très bonne volonté, comme des films à la saigne, qui tentent d'en parler le dimanche en famille, ben non, ça passait pas. Et d'un autre côté, des libristes audacieux avaient tenté l'impensable, compiler leur projet sur Mac et sur Windows, et de là faire un effort pour que leur projet semble le plus anodin, le moins déplaisant à utiliser, justement dans ces systèmes-là. Firefox, VLC, LibreOffice, des applications qui existent sur toutes les plateformes, et qui donc devaient être aussi facilement utilisables sur un OS libre. Ceux-là ont reçu les huées des extrêmes libristes qui n'acceptaient pas ce manque de pureté hors de ma distrib dans ce cas-là. Le monde du logiciel libre a des efforts à faire et comme le dit David Revoix, l'auteur du webcomic Peeper and Carrot, parce que libre et open source ne signifie pas au rabais ou à l'arrache. Le logiciel libre ne doit pas dire que les concepteurs peuvent tout se permettre, mais au contraire, avoir une obligation d'exigence. Mais bon, voilà que je m'emporte. Tout dans le calme, hein, vous aurez remarqué. Alors que le plus simple reste de participer pour que les choses soient enfin bien faites. Car qu'est-ce qui fait qu'une interface est engageante ? Le beau. Ah, il faut reconnaître. Mais est-il facile de parler de beau ? Pas tant que ça. Et est-ce qu'une interface qui est belle est-elle utilisable ? Pas toujours. Enfant du futur immédiat, c'est pas parce qu'un concept graphique est magnifique qu'il est réellement design. Ce mot englobe aussi le concept de fonctionnalité. L'oublier, c'est ne faire le travail qu'à moitié.